Cas. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous aimons cette parole, nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la Bible. Nous allons ouvrir un premier verset dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. On va s'arrêter là. Vous le savez, tout ce chapitre d'1 Corinthiens 12, ainsi que d'ailleurs 13 et 14, chapitre 13 et 14, traite du sujet des dons spirituels. Parmi ces dons spirituels, il y en a un qui passe un peu inaperçu. Certains sont très connus. L'apôtre les cite dans les versets précédents que nous n'avons pas lus. Par exemple, le don de prophétie est un don qui est assez connu. On en parle. Le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, etc., sont des dons de l'Esprit, du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit communique à l'Église pour son édification. Mais il y a un don dont on parle pas souvent, qui passe un peu inaperçu, et j'aimerais en parler avec vous. Cela va nous entraîner d'ailleurs sur deux, peut-être trois dimanches même. C'est le don de secourir. On le voit ici, l'apôtre Paul le cite, il parle du don de secourir. Et ce don-là est extrêmement important dès qu'on veut s'engager dans une mission d'évangélisation. On en parlera de l'évangélisation probablement à partir de fin janvier, c'est dans la deuxième quinzaine de janvier, je ne sais pas exactement quand, mais il me semble que nous avons besoin, avant de nous lancer dans l'évangélisation, d'être revêtus et d'être équipés de ces dons de l'Esprit. Et là, on a l'occasion, celui de secourir dont nous avons tellement besoin à partir du moment que nous voulons œuvrer pour rendre témoignage de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous entrons dans cette démarche, nous allons côtoyer toutes sortes de personnes qui vivent dans toutes sortes de situations et qui ont besoin d'être secourues. Comme nous le verrons, secourir, c'est porter assistance à quelqu'un, c'est l'aider, et aussi le secourir dans un danger dans lequel il pourrait se trouver. L'apôtre Paul nous dit ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 14, d'aspirer aux dons spirituels. À la fin du chapitre 12 aussi, au verset 31, il dit d'aspirer aux dons les meilleurs. D'aspirer aux dons les meilleurs. Et nous avons besoin d'aspirer à tous les dons de l'Esprit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un don de l'Esprit, on ne peut pas le produire de nous-mêmes. Mais Dieu nous donne à ce moment-là la capacité, et j'allais dire la force intérieure aussi, pour pouvoir porter secours à ceux qui en ont besoin. Mais avant de voir un peu plus en détail ce qu'est ce don, j'aimerais vous parler du cœur de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu du secours. Et n'oublions pas que ce don, c'est un don de l'Esprit. Il vient du cœur de Dieu. Le Seigneur est notre source. Il est le commencement de toutes choses. Amen. Amen. Il est celui qui est notre source. La source de l'amour se trouve en lui. Il est la source de la sainteté. Il est la source de la justice. Il est la source de la puissance. Il est le Dieu du secours. Et nous bénissons déjà, j'allais dire, le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est celui qui est venu à notre secours. Rappelons-nous dans quel état nous étions lorsque nous sommes venus à lui, lorsque le Seigneur a étendu sa main du haut des cieux pour venir nous secourir. S'il ne l'avait pas fait, dans quelle situation nous serions aujourd'hui ? Il est le Dieu du secours. Certains faits, certains enseignements de la parole de Dieu nous le rappellent avec force, avec conviction. Notamment, la parabole du bon samaritain, nous le voyons. Jésus, ici, eh bien, nous parle de cet homme qui a porté secours, porté assistance à quelqu'un qui avait été roué de coups par des voleurs, par des brigands. Il est aussi celui qui est venu secourir l'apôtre Pierre alors que celui-ci était en train de s'enfoncer dans l'eau lorsqu'il a eu peur. Il est venu lui porter secours. Et puis, puisque nous sommes proches de Noël, n'oublions pas que Noël nous rappelle en fin de compte que Dieu est venu lui-même nous porter assistance, nous porter secours. Amen. Quelques versets de la parole de Dieu. Il y a ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, où il est écrit « Au jour du salut, je t'ai secouru ». Nous voyons déjà avec ce verset que Dieu est celui du secours. « Au jour du salut, je t'ai secouru ». Je cite rapidement quelques versets, il y en aurait tellement dans la parole de Dieu qui nous parle de ce Dieu du secours. Dans le psaume 46, verset 2, « Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Dans le psaume 37, verset 39 et 40, « L'Éternel les secourt dans la détresse, il les délivre des méchants ». Il est celui qui vient à notre secours, qui peut secourir ceux qui sont tentés. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Mais il y a un texte, et j'aimerais m'arrêter dessus tout particulièrement ce matin. Nous allons lire une partie de ce texte ensemble dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Alors, pour bien comprendre, il nous faudrait lire en entier ce chapitre 16. Il y a 63 versets, on ne va pas les lire les 63 versets, on va lire simplement les 13 premiers versets. Les 13 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau et je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de royauté. Amen. Alors, ce chapitre 16, dans son entier, est tout à fait remarquable et tout à fait poignant et émouvant. D'ailleurs, il fait un peu les montagnes russes. Il commence dans le drame et l'horreur. On va en reparler. Puis, suite à l'intervention de Dieu, il y a un sommet extraordinaire. Malheureusement, après, ça commence à se gâter à verset 14, on redescend dans l'horreur. Et la fin de ce chapitre 16, il y a une note d'espérance, comme souvent avec Dieu. J'aimerais surtout m'arrêter ce matin avec ces 6 premiers versets que nous avons lus. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre sujet sur le Dieu du secours? Vous allez vite comprendre. Mais tout d'abord, rappelons le contexte de ce chapitre. Ici, le prophète Ézéchiel s'adresse à Jérusalem de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et donc, Ézéchiel a un message extrêmement important à adresser à Jérusalem. Jérusalem est une ville avec des habitants. Et ici, dans ce chapitre 16, il y a une histoire de cette ville, depuis son origine jusqu'à son infidélité. Il y a beaucoup de choses à dire sur Jérusalem prophétiquement par rapport à ce texte. Mais j'aimerais le transposer, ce texte, en mettant en relief que Dieu est le Dieu du secours et qu'il vient nous secourir comme il est venu secourir cette ville. Il vient aussi nous secourir les uns et les autres. On apprend ici que Jérusalem, dans ce texte-là, est comparé à un bébé, à une petite fille. Et l'horreur commence là. Et comprenons bien dans quelle situation nous pouvons être les uns et les autres. Il n'est pas seulement question d'une ville. Il est question aussi de l'humanité. Il est question des hommes et des femmes de cette génération. Il est question, comme dans ce texte, des enfants. Nous apprenons. Alors, certains commentateurs l'interprètent différemment, mais on ne va pas rentrer dans l'exégèse ce matin, mais j'aimerais mettre en relief bien la situation de ce bébé au départ. On apprend au verset 3 quelle est son origine. Elle est du pays de Canaan. Déjà, premièrement, ça commence mal pour ce bébé. Dès sa naissance, même avant sa naissance, puisqu'elle est du pays de Canaan. Or, on sait que depuis Noé, il y a une malédiction sur ce peuple. Il y a une malédiction. Déjà, c'est un peuple qui a une malédiction, un peuple maudit. Ça commence déjà mal. Ça commence déjà mal. Qu'est-ce que nous apprenons encore ? Que son père est amoréen et sa mère une Éthienne, deux peuples qui sont issus quand même de Canaan, mais qui sont différents. je dirais, excusez-moi l'expression, mais je vais l'employer pour bien qu'on comprenne, c'est une expression peut-être à connotation un peu vulgaire, mais c'est une petite bâtarde. C'est ça que ça veut dire. Et à cette époque-là, c'était quand même mal vu. Il faut bien comprendre cela, les choses. Donc, déjà, elle est sous le coup d'une malédiction, une enfant illégitime. Son père est un Amoréen et sa mère, une Éthienne. Sa mère, une Éthienne. On en apprend, si on avait lu un peu plus loin dans le Ézéchiel chapitre 16, que sa mère était prostituée. Alors là, ça continue. Vous voyez, il y a des personnes quand même qui, dès leur naissance, accumulent des drames, des circonstances fâcheuses. Ils y sont pour rien, elle y était pour rien, il y était pour rien ce petit bébé-là. Sa mère était une prostituée, mais la particularité, c'est qu'elle était cruelle. Remarquez que toutes les prostituées ne sont pas cruelles. On le voit par exemple dans l'affaire des deux prostituées qui vont aller trouver Salomon parce qu'il y en a une qui a pris le bébé de l'autre qui était mort, etc. Elle le fait passer pour son enfant. On voit qu'il y a une des deux qui a vraiment un cœur profond, un cœur sincère, un cœur aimant pour son bébé. L'autre est cruelle. Mais elle, cette Étienne-là, elle porte bien son nom parce que ça veut dire terroriser. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Et son père. Son père est faible. Son père est un Amoréen, son père est un démissionnaire, un père absent, un père faible, un père qui fait rien, un père qui ne donne même pas de nom. Ce bébé n'a pas de nom. On le voit. Parce que c'était le rôle du père dans ces pays-là, c'était le rôle du père de donner un nom à son enfant. On le voit avec Zacharie, quand on demande quel est le nom de ce bébé, il est obligé, parce qu'il est muet à ce moment-là, il est obligé d'écrire sur une tablette le nom de l'enfant, Jean est son nom. C'était donc au père que revenait la responsabilité de donner un nom, de donner une identité, on dirait, hein, à son enfant, mais elle n'a même pas d'identité, elle n'est rien. Une petite maudite, une petite enfant illégitime. Pas de nom, pas d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit quelque chose de vraiment terrible qui va se passer. Le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance. Au verset 4. À ta naissance, au jour tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Donc elle est sortie du ventre de sa mère. Normalement, on fait les premiers soins. Mais non, même pas. Tu n'as pas été lavé dans l'eau, tu n'as pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Et lisons bien, mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Pas mais un bébé qui sort du ventre de sa mère, il est accueilli par des bras d'amour. En logique, c'est ça, par des sourires. On le lave, on le couvre, on coupe le cordon. C'est horrible ce qui est en train de se passer là. C'est horrible. Il y a des scènes tout à fait horribles dans la parole de Dieu. Comme dans 2 Rois chapitre 6, où l'on voit ces deux mères qui vont faire cuire un enfant pour le manger, leur propre enfant. Et le lendemain, il faut faire cuire l'autre enfant, mais elles le cachent. C'est horrible. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a des choses horribles parce que la parole de Dieu nous parle en vérité. Elle ne cache pas tout ce que l'être humain peut faire de beau comme d'horreur. Et ce texte en fait partie. Ce bébé, on ne le lave même pas, on ne coupe même pas le cordon. On ne le couvre même pas, il est pris, sorti du ventre de sa mère, et on le jette dans le champ. Mais c'est horrible. On le jette, on ne l'a même pas posé, hein, sur le champ. On le jette, donc en tombant, il se fait mal. Il cognait sur la terre, cognait sur des pierres. Peut-être y a-t-il des épines dans le champ, on ne sait pas. Et puis un bébé comme ça, jeté dans le sang, même pas couvert, il ne va pas passer la nuit. Hein. Entre la chaleur du jour, on est quand même dans un pays chaud, et le froid la nuit, les bêtes des champs, il y a des renards, il y a de tout, il y a des sangliers, il y a de tout. Il ne va pas vivre longtemps, ce bébé. Hein. Ça commence vraiment mal. N'y a-t-il personne pour porter secours à ce bébé? En plus, on l'a fait parce qu'on avait horreur d'elle. Donc, dès le départ, dès sa vie, elle connaît le rejet, le dégoût. Et c'est dans la situation aujourd'hui dans laquelle vivent certaines personnes. Dès leur naissance, ça a mal commencé. Dès leur naissance, ça a mal commencé pour eux. On comprend pourquoi certains s'en prennent à Dieu. Et ils disent, excusez-moi l'expression, je suis né sous une mauvaise étoile. Alors, ce n'est pas la malédiction de Canaan, mais quelque part, ça y rejoint quand même. Comprenez pourquoi on a besoin de ce don de secourir. Il y en a un qui passe par là. C'est au verset 6. Je passais près de toi. C'est qui parle là? Ce n'est pas Ézéchiel, hein, c'est l'Éternel. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, ce petit... Cette petite, ce bébé d'un jour de naissance, elle baigne dans son sang. C'est normal, hein, le cordon n'est pas coulé. Le sang, quand un bébé est né, il y a le sang sur lui. Et puis en plus, ils l'ont jeté dans un champ. Peut-être elle a déjà reçu des piqûres d'insectes, des griffures ou des morsures d'animaux sauvages qui sont dans le champ. Elle baigne dans son sang. C'est marqué, je t'aperçus baigné dans ton sang. Mais un bébé, ça pleure. Personne d'autre n'est passé avant. Et je te dis, vis dans ton sang. Et c'est même répété, je te dis, vis dans ton sang. Alors certaines versions n'ont pas pris soin de répéter la chose, mais pourtant, dans le texte d'origine, c'est bien deux fois qu'il est dit. Je passais près de toi. Moi, j'aime ça. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Alléluia. Et comme je disais, notre Dieu est le Dieu du secours, et le secours est dans le cœur de Dieu, il a son origine là. Et si Dieu donne à son Église encore aujourd'hui le don de secourir parce que ça vient de son cœur, Dieu a compassion de ce bébé, il passe par là. Et quand Dieu passe par quelque part, ça change tout, comme dans Jean chapitre 9, où il y a cet aveugle de naissance. Tiens, lui aussi, sa vie a mal commencé. Lisez Jean chapitre 9, pas maintenant, mais chez vous. Sa vie à cet homme a mal commencé. Il a commencé dans le noir. Il ne voit rien, dans l'obscurité la plus totale. Il est né aveugle. Et je sais que dans certains pays, être né aveugle, on est considéré comme maudit. Je ne sais pas si... Peut-être certains l'ont vécu dans leur propre pays comme cela. Dans certains pays, si vous naissez aveugle, vous êtes maudit. C'est qu'il y a une malédiction sur votre famille. Cet homme est né aveugle. Et d'ailleurs, même les disciples de Jésus vont lui dire, mais qui a péché? Vous voyez, hein? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc on voit qu'il y a même un regard, les gens ont un regard sur lui, voilà, c'est quelqu'un qui a péché, sa famille est dans le péché, etc. Non, mais Jésus va dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Jésus, il est dit dans Jean chapitre 9, Jésus vit en passant de la même manière qu'il nous est dit ici au verset 6, je passais près de toi. Alléluia, je passais près de toi. Jésus a guéri cet aveugle de naissance. Ça me fait penser, je le disais tout à l'heure en introduction, à la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'il y a un lévite qui passait par là. Il l'a vu? Il a vu cet homme qui... se roulait lui aussi dans son sang, hein, mais il ne lui a pas porté assistance, il ne lui a pas porté secours. Un sacrificateur aussi qui passait par là, pareil, il a détourné son regard. On ne le sait pas, mais peut-être que d'autres personnes ont vu ce bébé jeté dans les champs. Mais il y avait un Samaritain qui lui aussi passait par là, comme nous dit l'Écriture. Dans cette parabole du bon samaritain, il y a un samaritain qui passe par là, mais lui, au lieu de détourner son regard, il va porter assistance à ce malheureux. Le sacrificateur et le lévite ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Il y a des raisons à cela. Déjà, parce que cet homme est plein de sang. Et pour un sacrificateur et un lévite, toucher quelqu'un qui a du sang, c'est se rendre impur. Vous voyez là, leur religion leur interdit. Et quand la religion fait barrière à porter secours, on peut dire que là, on a fait fausse route. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Mais le Samaritain, il n'en a que faire. Il y a un homme qui est en train de gémir, d'agoniser sur la route. Il va lui porter secours. Il n'a pas peur de se salir. Et Dieu lui-même n'a pas peur de se salir. Lui qui est saint. Les hommes se regardent comme saints, le sacrificateur, le lévite, je suis saint, je ne vais pas me rendre impur. Mais s'il y en a un qui est saint par-dessus tout, c'est bien le Seigneur, et lui, il n'a pas eu peur de se salir. Il n'a pas eu peur de se salir. Et il dira un jour à Pierre, il le fera comprendre à Pierre au travers de la nappe, et Pierre le dira, « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme étant souillé ou impur. » Et il acceptera d'entrer dans une famille de païens. Pour un juif, c'était inconcevable. Mais il y avait là une famille qui avait besoin d'être secourue. Ah, quand Dieu passe quelque part, ça change tout, ça a tout changé pour ce bébé. Il nous a dit, je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang. On peut même traduire, en train de gigoter dans ton sang. On voit, on imagine ce petit bébé là, avec ses petits bras, avec ses petites mains, qui est en train de bouger comme ça. Et qu'est-ce que va lui dire le Seigneur ? Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Deux fois. Alors c'est à l'impératif, ça peut nous surprendre. Mais il faut savoir qu'en hébreu, il y a deux styles d'impératif. En français, on n'en a qu'un. Mais en hébreu, il y a deux styles d'impératif. Celui que nous connaissons et puis le jussif, ce qu'on appelle le jussif. Ces deux styles d'impératif, on le retrouve par exemple dans les commandements que nous traduisons parfois en français au futur. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point. Mais le jussif, c'est une forme impérative qu'on n'a pas en français, qu'on pourrait traduire par une sorte de supplication. D'ailleurs, on l'utilise sans le savoir. Quand nous faisons des prières, par exemple, on dit « Seigneur, étends ta main ». On pourrait dire « Mais là, c'est un impératif, on dit au Seigneur, étends ta main ». Mais pour nous, ça signifie plus « Seigneur, je t'en supplie, étends ta main ». C'est une supplication. Et ici, c'est ce temps-là qui est employé. C'est cet impératif qui est employé. On peut voir ici tout le Seigneur lui-même qui est tellement ému de compassion. On le voit dans les évangiles. Jésus qui est ému de compassion, qui va pleurer. Il va pleurer d'ailleurs quand il s'approche de Jérusalem pour revenir à Jérusalem. Il va pleurer aussi à la mort de Lazare. On voit Jésus ému de compassion. Et là, Dieu est tellement ému de compassion. Vis, je t'en supplie. Il ne veut pas que ce bébé meure. Vis dans ton sang. Et Dieu il vient au secours de cet enfant. Il va même repasser au verset 9. Il va repasser après. Non, verset 8, excusez-moi. Il va repasser plus tard auprès de cet enfant qui a grandi. Et il va la revêtir. Elle va devenir belle, digne de royauté. Vis dans ton sang. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça ? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Ça veut dire que Dieu porte secours et il donne à chacun la force de vivre dans les situations et les circonstances dans lesquelles il se trouve. Elle est dans son sang, mais Dieu va lui donner la force de vivre dans cette circonstance-là. La preuve, c'est qu'elle va pouvoir grandir. Un bébé ne passe pas la journée dans une telle circonstance, ne passe pas la nuit. Elle va mourir, mais Dieu lui a dit... Vis dans ton sang. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il change tout. Notre Seigneur vient au secours des personnes. Et dans les circonstances dans lesquelles ils sont, Dieu vient les secourir et leur donne la force de tout surmonter. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu du secours. Il fait des choses extraordinaires. Ça nous dépasse. C'est pour ça que le don de secourir, excusez-moi, n'est pas un don, j'allais dire, humain. On va en parler. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Le péché a bien tarni les choses. Il a gâché les choses, il détruit les choses. Mais Christ rétablit en nous l'image de Dieu. Mais on ne va pas parler de ça ce matin. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Comprenez que c'est important, avant de parler de l'évangélisation, de parler du cœur de Dieu, parce que tout part de là. Et si nous voulons évangéliser, c'est par amour pour Dieu et pour notre génération. Dans Matthieu chapitre 4, verset 12, nous ne pouvons pas être insensibles à ce qui se passe. J'aimerais avec vous lire verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Ici, il nous est parlé du territoire de Zabulon et de Nephtali, au nord d'Israël. Il nous est précisé que ce territoire est enténébré. Il est dit que les gens qui habitent sont assis dans la région et l'ombre de la mort. C'est une prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe, le prophète, déjà, et qui s'est accomplie en la personne de Jésus. La lumière dont il est question, ici, n'est autre que Jésus. Jésus est au début de son ministère. Il a été baptisé par Jean-Baptiste quelques semaines auparavant, et entre cet épisode, entre l'épisode où Jésus a été baptisé et celui-ci, il y a une quarantaine de jours où Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert où il a été tenté par le diable. Et là, Jésus est vraiment au début de son ministère. Et il a commencé par ce territoire-là. Intéressant de savoir ça. Il a commencé par ce territoire-là. Il a commencé par ce territoire enténébré, par ce territoire qui est dans la région et l'ombre de la mort. Pourquoi il est dit cela, de ce territoire-là? Ce territoire-là a été dévasté plusieurs fois par des guerres avec les Syriens et les Assyriens. À peine une guerre était achevée, qu'il y avait des champs de ruines partout. On commençait à reconstruire, mais une autre guerre a arrivé. Une autre guerre a arrivé et dévasté tout. Ainsi, c'était à répétition. Et on peut essayer de s'imaginer ce que c'est que de vivre dans une telle région. On en a aujourd'hui, malheureusement, un aperçu avec ce qui se passe en Syrie, un pays dévasté, et ce qui se passe dans d'autres pays qui ont été dévastés par des guerres, par de multiples guerres. À peine ils commencent à reconstruire, à déblayer les rues, que ça y est, ils reçoivent encore d'autres bombes. Et on comprend pourquoi ils fuient leur pays, ces personnes-là. On comprend pourquoi ces personnes-là qui vivent dans de telles régions où il y a l'ombre de la mort partout, les ténèbres partout, on comprend pourquoi ils fuient cet exode massif des populations. Et c'est là que Jésus est venu. Alléluia. Pourquoi? Pour apporter la lumière, pour venir secourir cette population, pour leur apporter la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. Car il n'y a que ça, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Parce qu'il est celui aussi qui vient visiter notre pays, qui en a tellement besoin. On pourrait, et c'est vrai, quelque part, la France est privilégiée. Mais il faudrait être aveugle quand même pour voir et ne pas voir ce qui se passe dans notre pays, surtout dans certains quartiers de notre pays qui se retrouvent un petit peu comme ce territoire de Zabulon et de Nephtali. Il y a les ténèbres, il y a l'ombre de la mort sur certains quartiers de nos pays, de notre pays. Que Dieu nous aide. Dieu agit directement. Et il agit aussi au travers de son Église. C'est pour cela qu'il équipe son Église du don de secourir. Lorsque l'apôtre Paul, dans Actes 16, cherchait son chemin, il voulait aller en Bithynie, mais Dieu ne lui a pas permis. Et il tourne en rond, il ne sait plus quelle direction prendre. Et à un moment donné, à une nuit, il fait un rêve, il voit cette vision qu'on appelle la vision du Macédonien. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans cette vision ? Vous vous rappelez dans Actes 16, verset 9, « Passe en Macédoine, et quoi ? Et secours-nous. » Passe en Macédoine et secours-nous. Alors là, ni une ni deux, l'apôtre Paul, il fait ses bagages, ses valises, et hop, direct en Macédoine, pour apporter le beau message de l'Évangile. Alléluia. Pour secourir les habitants de la Macédoine, il va là trouver en Macédoine, eh bien, Lydie, la marchande de pourpre. Le salut va arriver dans cette famille. Mais après cet épisode, l'apôtre Paul, en Macédoine, va se retrouver en prison. Et là, qu'est-ce qui se passe en prison ? Les murs de la prison, on sait, tremblent. Et le geôlier qui pense que tous les prisonniers se sont évadés, il allait se suicider. Mais l'apôtre Paul va lui dire, non, ne te fais pas de mal. Que dois-je faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà un homme avec sa famille qui va être secouru. Alléluia. Avec toute sa famille. Lui qui allait se suicider, l'apôtre Paul lui apporte le beau message de l'Évangile. Et cette famille va connaître le salut. Amen. Le don de secourir s'est manifesté. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide les uns les autres à comprendre quel est son cœur pour notre génération d'aujourd'hui. Dieu encore aujourd'hui veut secourir tant qu'il est jour. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que Dieu soit béni.